BPM, élection régionale 2021.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, les élections régionales auront lieu le 20 et le 27 juin prochain. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'au 18 juin des émissions spéciales. Les candidats pour les élections régionales de Normandie viendront répondre à nos questions. Et aujourd'hui, pour cette troisième émission, nous accueillons Delphine Blickmann, qui fait partie de la liste du département de l'Eure sur la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs mené par Pascal Lemanac. Delphine Blickmann, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes accompagnée également d'Anne-Marie Collin, qui fait également partie de la liste. Bonjour Anne-Marie Collin.
Bonjour.
Alors Delphine Blickmann, vous avez 42 ans et vous êtes professeure de philosophie.
Tout à fait.
Vous faites donc partie de la liste du département de l'Eure sur la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs mené par Pascal Lemanac.
Tout à fait.
Et durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences de la région. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de vous présenter ?
Eh bien, à Lutte ouvrière, nous saisissons toutes les occasions de faire entendre le camp des travailleurs et donc nous nous présentons à toutes les élections, même si nous pensons qu'aucune élection n'a jamais changé la vie des couches populaires et je ne pense pas que les élections régionales 2021 vont marquer quelque chose de nouveau sur ce plan-là.
Alors donc, la présence de Lutte ouvrière à ces élections, c'est, dites-vous, faire entendre le camp des travailleurs. Les travailleurs et les travailleuses ne sont pas assez entendus le reste du temps ?
Bah bien sûr que non. Le monde du travail, les salariés, les chômeurs, les retraités, nous sommes la majorité de la population. Nous faisons tout tourner dans la société et notre voix n'est jamais entendue. Nous sommes les petites mains dont on parlait dans le Covid, dont on se rend compte qu'elles existent que dans des moments comme ça exceptionnels et dont on ne tient en fait jamais compte. Hein, on a beaucoup parlé dans cette crise du Covid des entreprises en difficulté et beaucoup aussi des petits patrons, à juste titre d'ailleurs. Beaucoup de petits patrons se sont retrouvés en difficulté, mais qui s'est soucié du chômeur qui était en difficulté, de l'intérimaire qui a perdu son emploi? Il n'y a pas eu des reportages sur les JT de France 2, TF1 pour se soucier de comment ils allaient survivre. Donc oui, le monde du travail, bien que nous soyons la majorité de la société, n'est jamais tellement entendu.
Comment est-ce que vous comptez, comment est-ce que vous faites pour faire entendre un peu plus le camp des travailleurs ?
Eh bien, encore une fois, nous le faisons en dehors des élections toute l'année et pendant les élections. Nous défendons un certain nombre d'idées qui, selon nous, correspondent aux intérêts du monde du travail. Et dans ces élections, on a à cœur d'avoir un programme qui se situe exclusivement sur le terrain des intérêts du monde du travail, qui met en avant l'idée que chacun dans cette société doit avoir un emploi, que le droit à un emploi devrait valoir pour tout le monde. Et aussi, on met en avant l'idée qu'on devrait tous avoir un salaire et une retraite digne. Donc oui, notre programme correspond aux intérêts de la majorité.
L'ensemble des candidats à cette élection régionale promettent d'utiliser les finances publiques après cette crise de la Covid-19 pour relancer l'économie et limiter le plus possible, au final, l'impact sur les travailleurs. Je suppose, au final, que vous êtes d'accord avec ces propositions ?
Mais pas du tout. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de nouveau. Ils utilisent les finances publiques, mais à coût de milliards, pour aider les entreprises avec la crise du Covid. L'État a dépensé des centaines de milliards pour aider les entreprises, ce qui n'a empêché à peu près personne de licencier. On se souvient de Sanofi qui licencie des chercheurs en pleine crise sanitaire. Ici, à Vernon, Ariane Group a un plan de suppression de postes de 1500 personnes, alors que M. Macron est venu en janvier promettre des investissements de l'État à hauteur, si je me souviens bien, de 30 millions d'euros. Donc les finances publiques, bien sûr, il n'y a pas de problème. Elles sont au service des entreprises. C'est open bar, les finances publiques pour les grandes entreprises et les capitalistes. Par contre, les travailleurs n'en voient jamais les retombées, en fait. Les licenciements continuent, les suppressions de postes continuent, nombre de gens intérimaires qui ont perdu leur travail depuis un an, enfin c'est une catastrophe en fait. Donc non, nous ne sommes pas d'accord, l'argent public doit servir à embaucher directement des travailleurs partout où il en manque et dans les hôpitaux. C'est quand même un peu délirant qu'après un an de crise sanitaire, il n'y ait pas eu d'embauche dans les hôpitaux publics, dans les EHPAD. L'argent public devrait servir à ça. Ben non, il sert à financer et à aider les capitalistes, en fait, à l'image de toute cette société, en fait, qui fonctionne pour les capitalistes, les plus riches, les actionnaires des grandes entreprises. Donc, le discours qu'on nous tient sur ces aides aurait pour contrepartie des retombées positives pour les travailleurs, nous n'y croyons pas du tout, parce que, de fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe, ni au niveau de l'État, ni au niveau de la région.
Quelles sont donc vos propositions pour que les régions, et je cite l'un de vos tracts, que les régions ne soient pas des vaches à lait des capitalistes?
Ben, elles le sont, hein. De fait, les régions font en petit ce que l'État fait en grand, hein. Monsieur Macron, lui, c'est des centaines de milliards qu'il a déversés en plan d'aide, en plan de relance, etc., aux actionnaires des grands groupes, hein. Et on a vu Bancel, par exemple, devenir faire partie des plus grandes fortunes, augmenter sa fortune. On a vu les profits augmenter de 39 milliards en 2020. Donc l'argent public sert en fait à enrichir les actionnaires et cet argent n'est même pas réinvesti, hein. Il a alimenté la spéculation au point que aujourd'hui les économistes craignent un krach boursier en fait inévitable avec toute cette spéculation. Donc les régions font ça en petit, voilà, avec des subventions de moindre envergure, mais ils font exactement la même politique. Et tant que on restera dans une société qui fonctionne pour une minorité de capitalistes, qui fonctionne pour la grande bourgeoisie, en fait, tant que cette classe dirigeante sera au pouvoir, les régions continueront à faire ce que l'État fait aussi. Et donc nous, notre proposition, c'est de renverser le capitalisme, c'est de changer la société. Voilà, la crise du Covid, elle a montré que la gestion capitaliste de la société est un drame. Pour toute l'humanité, pour le monde du travail bien sûr, les travailleurs ont été les premiers touchés par cette crise, ils ont continué à travailler, ils ont été les plus exposés au Covid, il n'y a eu aucune reconnaissance, les primes on les attend encore dans bien des endroits, voilà, on fait tout fonctionner et la société ne fonctionne pas pour l'intérêt de la majorité. Donc tant qu'on sera dans cette société capitaliste, les régions comme l'État seront au service de cette minorité qui dirige, mais qui dirige mal, qui dirige dans ses intérêts à elle, pour ses intérêts personnels propres, pour son profit, mais qui ne dirige pas dans l'intérêt de la majorité de la société. Pour que ce soit le cas, il faut un changement profond de société. Il faut une révolution sociale. Nous, c'est pour ça que nous militons.
Et donc, du coup, cette révolution sociale, ce changement profond de la société, comment comptez-vous le faire et vers quoi tendre au final pour une nouvelle société ?
La lutte ouvrière, voilà. Si nous faisons entendre le camp des travailleurs, c'est non seulement parce que ça nous paraît légitime que ceux qui font tout tourner dans la société aient le droit de vivre, tout simplement. Les capitalistes défendent leur droit à faire du profit sans pitié. Nous, on pense que les travailleurs devraient défendre leur droit à vivre, le droit à un emploi, à un salaire, à une retraite correcte, sans pitié pour les profits. Et donc, pour changer les choses, on pense que les travailleurs sont une force, en fait. On compte sur la force du monde du travail, la force collective, qui tient au fait que nous faisons tourner l'économie, que c'est nous qui fabriquons les richesses, que c'est nous qui fabriquons les profits qui enrichissent les actionnaires. Cette force-là, nous voudrions que les travailleurs en prennent conscience et qu'ils l'utilisent pour prendre le contrôle de la société. Je pense que c'est quand le monde du travail prendra collectivement confiance dans sa propre force que les choses pourront changer. Pas par les élections, mais par de grandes luttes collectives. Et les élections sont l'occasion de le dire, déjà, et puis d'affirmer un programme de lutte. Un programme, justement, pour mettre en avant le contrôle nécessaire de la majorité de la population sur l'économie, sur toute la société.
On constate donc que le discours que vous tenez est davantage axé sur la défense des travailleurs, votre combat à lutte ouvrière depuis toujours, que sur un véritable programme de gouvernance de région. Pour autant, j'aimerais vous entendre sur la question des transports collectifs qui concernent le quotidien des travailleuses et travailleurs. Sur les trains, par exemple, la situation actuelle est-elle satisfaisante selon vous ?
Je crois que tous ceux qui prennent le train constatent que ça n'a rien de satisfaisant. Bien sûr, les services publics marchent mal, marchent de plus en plus mal, mais c'est lié à ce dont on parlait avant, en fait. Si tout marche de plus en plus mal, les transports, mais comme le reste, comme les hôpitaux, comme la santé, enfin comme tout le reste, c'est parce que l'argent public est consacré à autre chose depuis des années et des années et des années. Une part croissante du budget de l'État est consacrée à subventionner les entreprises privées, à subventionner les plus grands capitalistes. Cet argent-là, il manque là où il serait utile à la population, là où il répondrait en fait à des besoins. Et dans les transports, bien sûr, on sait tous que la ligne Paris-Rouen est un calvaire pour bien des gens qui doivent la prendre au jour le jour. Mais c'est comme partout. Il faudra qu'on impose en fait que l'argent public aille à ce qui est utile à la population et n'aille pas dans les poches des actionnaires.
Et du coup, quelles sont vos propositions d'amélioration ?
Que la population, les travailleurs, ceux qui prennent le train et les autres s'organisent. s'organisent pour faire pression sur les autorités, s'organisent pour faire pression sur la SNCF. Parce que nous pensons qu'il n'y a qu'en nous organisant, en nous mobilisant et en défendant nous-mêmes nos intérêts que les choses peuvent changer. Donc c'est ça les pistes d'amélioration. C'est que les usagers, les travailleurs, voilà, s'organisent pour imposer que d'autres choix soient faits dans la société.
Et la gratuité des transports, ça peut être un axe de réflexion ?
Mais bien sûr, que les transports devraient être gratuits. Enfin, on est obligé de prendre les transports pour aller travailler. La moindre des choses serait que le patron paye tout déjà. Et les transports soient gratuits pour les travailleurs, bien sûr. Et en fait, là aussi, pour trouver l'argent, il faudrait le prendre là où on le donne de manière inutile. Donc il faudrait effectivement tout revoir. Si la majorité de la population contrôlait tout ça, avait son mot à dire sur la gestion de l'économie, sur la manière dont on investit l'argent public, bien sûr qu'on pourrait faire ce genre de choses comme la gratuité des transports. Et pas seulement en Normandie, partout en fait. Parce qu'on répartirait l'argent de manière bien plus utile pour la population et de manière en fait bien plus efficace pour l'intérêt général.
Au final, comme vous l'avez déjà dit, ce combat, cette volonté de remanier la société, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas uniquement régional, c'est vraiment un plan qui pourrait être national.
Je crois, oui. Beaucoup de candidats à cette élection parlent de faire vivre la Normandie, d'être mieux en Normandie. Mais enfin, on vit une crise économique depuis 40 ans qui est mondiale. La crise sanitaire, la pandémie a été mondiale. Donc bien sûr que les choses qui influencent notre vie quotidienne se jouent à une autre échelle que la région régionale. Et bien sûr que les problèmes ne pourront se régler qu'à une échelle bien plus vaste que l'échelle régionale.
Finalement, si vous n'avez pas vraiment de programme, revenons sur le côté plus régional, si vous n'avez pas vraiment de programme aussi développé que les autres candidats à ces élections en Normandie, quel est l'intérêt pour les électeurs de porter leur voix sur votre liste ?
C'est que justement, nous, on ne fait pas de promesses et on ne va pas commencer à ces élections régionales 2021 parce qu'on est profondément convaincus que les élections ne changeront pas notre vie. Donc les promesses ne coûtent pas cher et les partis qui se présentent ont participé à la gestion gouvernementale de la société et on a vu ce que valent leurs promesses envers les couches populaires. Donc, il faut que les travailleurs, les ouvriers votent dans ces élections pour eux-mêmes. C'est une première raison. Quand on est ouvrier, on vote ouvrier. Quand on est travailleur, on vote pour son camp. Les autres politiciens représentent tous finalement le camp des capitalistes. Ils veulent tous participer à la gestion de la société telle qu'elle est, c'est-à-dire à la gestion du capitalisme. Eh bien nous appelons les travailleurs, les chômeurs, les retraités à voter pour eux-mêmes, pour leur camp. Et puis une autre raison de voter pour nous, c'est que cela contribue à organiser le camp des travailleurs, à le regrouper. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que bien des gens dans le monde du travail sont déboussolés, sont écœurés de la politique à cause justement des trahisons des partis qui faisaient des promesses et qui sont allés au gouvernement et ont trahi toutes leurs promesses. Donc, face à cette perte de repères politiques, eh bien, il faut que le camp des travailleurs s'affirme et il faut que nos intérêts, le droit, je répète, à un travail, la répartition du travail entre tous avec maintien du salaire, le fait d'imposer un contrôle du monde du travail sur toute l'économie et la société, il faut que ce programme-là, qui est un programme de lutte, qui n'est pas un programme de gouvernance électorale, mais un programme dont on devra se saisir quand on se mobilisera, il faut que ce programme recueille le plus de voix possible, soit entendu, et y compris que ceux qui sont déboussolés voient que cette perspective-là existe. Que voilà, le camp de la lutte du monde du travail, le camp des luttes collectives, le camp de la révolution sociale existe. Et c'est pour ça, pour faire quelque chose d'utile pour l'avenir, en fait, pour construire quelque chose, pour changer la société demain, qu'il faut que tous ceux qui sont conscients de ça votent pour les listes lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.
Ce qui est très important pour vous, on l'a entendu, on l'a compris, c'est le fait de dire qu'un travailleur, un ouvrier qui vote pour lutte ouvrière, vote au final pour lui-même.
Bien sûr, bien sûr. Les politiciens, encore une fois, ne sont pas avares de promesses, mais ils sont tous pour gérer le capitalisme tel qu'il est. Au gouvernement, ils font tous la même chose. On l'a vu depuis 40 ans, l'alternance gauche-droite. Ils défendent tous la grande bourgeoisie, la classe dirigeante, les plus riches. Et on voit comment cela enfonce toute la société dans une crise quand même qui prend des dimensions complètement catastrophiques. Une crise économique, la crise écologique, maintenant la crise sanitaire gérée quand même là aussi d'une manière aberrante du point de vue de l'intérêt général. Pas une embauche dans les hôpitaux, pas de stock de masques parce que finalement ça coûtait trop cher, pas de vaccins en nombre suffisant, des entreprises pharmaceutiques qui se permettent de vendre leurs vaccins à des prix éhontés en fait. Et les États qui acceptent ça, et l'État français qui accepte ça. Donc oui, il faut que les travailleurs ne soient pas dupes des politiciens, ne votent pas finalement pour des gens qui sont leurs ennemis de classe. Et tous les travailleurs qui sont conscients de ça, eh bien, il faut qu'ils votent Lutte Ouvrière et fassent voter autour de Lutte Ouvrière.
Et pour ce scrutin, il y a plusieurs listes classées à gauche dont on pourrait penser qu'elles aussi défendront les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Mais du coup, ça n'est pas votre avis, vous nous l'avez un petit peu expliqué pourquoi.
Bah écoutez, oui, qui peut penser aujourd'hui que le Parti Socialiste, Écologie Les Verts, le Parti Communiste défendent encore le monde du travail? Je veux dire, les paroles c'est une chose, mais c'est les actes qui comptent. Tous ces partis ont participé à la gestion gouvernementale depuis des dizaines d'années. Et quand ils ont été au gouvernement, tous, ils ont attaqué le monde du travail. Tous, ils ont fait reculer les droits du monde du travail, des retraités, des chômeurs, comme en ce moment. Donc bien sûr que nous ne faisons aucune confiance à ces partis. Et que le langage électoral, c'est une chose, mais je crois que bien des gens n'en sont plus dupes. Et il faut aller plus loin que le langage et les promesses électorales. Voilà, bien sûr que ces partis qui ont accepté de gouverner au profit des plus riches ne sont absolument pas dans le camp des travailleurs.
Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais pour lutter contre le chômage, vous souhaitez répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Concrètement, comment est-ce que ça s'organise ?
Eh bien, ça veut dire sacrifier les profits. Voilà. Aujourd'hui, ils sacrifient les emplois à leur profit, les grands capitalistes, les grands bourgeois. Ben, nous pensons qu'il faudrait sacrifier les profits au droit de chacun dans cette société d'avoir un travail et un salaire correct. Enfin, vous savez peut-être, Renault, qui est quand même un employeur important de la région, y compris même Renault Flins à Mantes, c'est pas la région Normandie, mais enfin, ils restructurent, ils suppriment des postes, ils veulent fermer l'usine de Flins. Hein, et en ce moment, des travailleurs réagissent depuis quelques jours, même si c'est une minorité, réagissent pour essayer d'avoir des informations et des garanties sur leur emploi. Donc, Renault sacrifie les travailleurs. Et pendant ce temps, le PDG de Renault s'accorde, je crois, quelque chose comme 6 millions entre la part fixe, la part variable et les actions gratuites, 6 millions. Bah, bien sûr que pour arriver à répartir le travail entre tous, c'est-à-dire à faire qu'il n'y ait plus un seul chômeur en fait, c'est ça qu'il faut. Que tout le monde ait un travail, qu'on répartisse le travail en embauchant là où c'est utile dans les services publics, en travaillant moins dans les entreprises, mais en travaillant tous. Bah pour faire ça, bien sûr qu'il faudra sacrifier les profits. Et il faut que les travailleurs se sentent dans leur bon droit de vouloir sacrifier les profits. C'est quand même bien plus normal que l'ensemble de la population ait un salaire et un emploi au 21e siècle plutôt qu'on voit des fortunes s'accumuler à des dimensions qui dépassent l'entendement. Donc il est légitime de prendre sur tous ces milliards accumulés, hein, Renault c'est 25 milliards en 10 ans, ils ne seront pas sur la paille si on en sacrifie une bonne partie pour donner à tous un emploi et un salaire digne qui suivent l'augmentation des prix.
Et en matière de santé, dans votre tract, vous dites que la gestion capitaliste du système hospitalier a privé les hôpitaux de moyens bien avant que la Covid-19 ne fasse son apparition. Comment est-ce que vous comptez redonner ces moyens aux hôpitaux ?
C'est vrai que la crise du Covid a été un révélateur, en fait, de la manière aberrante dont la société capitaliste fonctionne. Hein, de réforme en réforme, ça fait des années qu'on diminue les moyens dans les hôpitaux, des années que le personnel soignant dit qu'il est à la limite de l'explosion, que ce n'est pas possible de faire tourner les hôpitaux avec aussi peu de personnel, aussi peu de moyens. Eh bien, la pandémie a révélé ça, et l'a révélé de manière particulièrement choquante. Hein, et encore une fois, un an après, le gouvernement n'a toujours pas embauché massivement dans les hôpitaux. Enfin, c'est quand même un scandale, c'est révoltant. Eh bien, bien sûr que pour faire face à ce problème-là, pour rétablir un service public de santé correct, là aussi, il faudra s'attaquer à la manière dont la société est gérée, uniquement dans le profit des plus riches. Voilà. Et en période de crise économique, on voit ce que ça veut dire. Les plus riches en veulent toujours plus face à la crise économique. Et c'est la population, c'est l'ensemble du monde du travail qui est sacrifié à cette logique-là.
Delphine Glitman, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Cette émission sera rediffusée à 13h30 et à 19h30. Demain à 7h30, nous recevrons Laetitia Sanchez, candidate en tête de liste du département de l'Eure sur la liste La Normandie nous rassemble, menée par Mélanie Boulanger. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.